France Inter.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Ça sent la cannelle, le sucre.
Cinnamon brioche.
Rolls.
C'est roulé, vous allez voir. Ah, voilà. C'est parti.
Cinnamon Rolls, c'est une recette typiquement américaine. C'est hyper réconfortant en cette période.
Donc en forme d'escargot, une brioche suédoise avec de la cannelle, ça, du sucre,
très
du
bon.
Beurre. C'est hyper beau.
Des pommes au four à la cannelle à réaliser avec vos enfants.
Tu sais quoi ? On va rajouter deux bâtons de cannelle et une feuille de lotus dans la sauce pour l'agneau.
Ah, ça ressemble à ça.
Voilà, bah, alors, à la cannelle, normalement, c'est en bâton, mais là, ouais. Vous la prenez chez votre arboriste un petit peu réduite en poudre ou carrément en petits morceaux de manière à ce qu'elle se diffuse bien lorsque vous allez la faire bouillir dans le
Eh bien, je veux dire que c'est une idée géniale d'avoir ajouté de la cannelle. Hein.
Faut aimer la cannelle. Hein.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. On attaque l'année 2023 tout en douceur, avec une épice qui réchauffe les cœurs et les estomacs et qui est accessoirement bourrée de bienfaits. C'est la cannelle, vous l'aurez compris. Au cœur de cette émission, un redoutable paradoxe qu'on va tenter de décrypter ensemble. Comment cette épice universelle, présente dans à peu près toutes les cuisines du monde, est aussi une épice caractérielle qui ne plaît pas à tout le monde, justement, loin s'en faut. En France, elle est même clivante et plutôt rare dans notre répertoire. Alors, comment la cuisiner ? Comment la faire apprécier à ceux qui la détestent ? Autant de défis qu'on va relever avec nos deux invités du jour. Samir Ourriagli, bonjour.
Bonjour François-Régis Gaudry, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre monsieur épice dans cette émission, fondateur de la maison Encore, spécialisé dans les épices 100% françaises. Vous sourcez et vous commercialisez même une épice, une cannelle d'origine française qui vient d'où ?
De Mayotte.
Voilà, de Mayotte, et vous allez nous raconter cette fameuse épice qui fait aussi écho à vos origines marocaines. Hein.
Tout à fait. Et ma nationalité belge également.
Et votre nationalité belge, bah oui.
On en parlera. Et je suis ravi qu'on s'en canaille avec la cannelle.
Les spéculoos, c'est ça que vous voulez ?
Les spéculoos, oui.
Voilà. Et bah écoutez, il y en a. Vous allez voir que de la cannelle, il y en a absolument partout. Carrie Solomon, bonjour.
Bonjour François Régis.
Good morning, je devrais dire.
Good morning.
Vous êtes originaire du Michigan, aux États-Unis. États-Unis, le pays de la cannelle, on va le voir. Vous êtes créatrice, consultante culinaire. Vous avez publié de très nombreux livres de recettes que j'adore personnellement, mais ça vous le savez. Et le dernier est avec moi, c'est Breakfast All Day, 80 recettes pour se lever de bon pied, aux éditions de La Martinière, dont vous signez également les photos. Hein.
Oui, tout à fait.
Travail tout à fait impressionnant, il est évidemment dans votre livre, question de cannelle, dans bon nombre de recettes, puisqu'il y a notamment les fameux...
Il y a les cinnamon rolls.
Les cinnamon rolls, ouais. Que vous nous avez préparés,
mm-hmm.
Et que l'on va déguster ensemble, je m'en réjouis. Dans les fauteuils des chroniqueurs, je suis ravi d'accueillir Zazie Tavitian et Jean-Mata Christol. Bonjour les copains.
Bonjour, bonne année.
Merci Zazie, vous aussi. Alors Zazie, aujourd'hui au menu ?
Alors moi je suis allée cuisiner la cannelle avec Senda Wagena dans son restaurant Jujube, c'est au pied de Montmartre à Paris.
Très bien, on va voir ça avec vous et Jean.
Eh bien, puisque nos invités nous parlent de cannelle dans les dimensions sucrées qu'on lui connaît, je suis allé chercher dans le food pairing des associations salées.
Dans le food pairing ?
Yes, sir.
Accord, mets et vin, c'est ça ?
Non, accord de saveur entre
oui, elles. Oui, accord de saveur entre elles, oui, tout à fait. Ah oui, food pairing, non, j'y suis. Des questions, des réactions, des recettes autour de la cannelle à la maison. Pour interagir en direct dans l'émission, il y a notre mail onvadeguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de notre émission, chroniques, adresses, recettes, coups de cœur, podcasts, franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Le roi.
C'était un extrait de Le Roi, signé Philippe Catherine et Pierre Daven-Keller, un nouveau single sorti mercredi dernier, il y a quelques jours. Oui, car je ne pouvais pas manquer évidemment l'occasion en ce jour d'épiphanie de placer sous vos micros ce qui ressemble à...
Quelle
perspicacité. Alors, pour rassurer Corinne Audouin, pas de cannelle dans cette galette des rois, elle est tout à fait traditionnelle, mais est-ce que vous pouvez toutefois me dire ce que vous en pensez, éventuellement si vous avez eu la fève ?
Déjà, elle sent très bon.
Zazie.
Elle sent très bon.
C'est vrai. Ouais. Elle a un parfum bien beurré.
Bien beurré, ouais.
Très moelleux.
Carrie, vous aimez ?
Mm-hmm.
Une américaine fan.
Une américaine peut aimer la galette des rois aussi.
Pas trop sucré.
Samia ?
Justement. Très équilibré. J'aime beaucoup ça. On sent bien l'amande.
On sent bien l'amande. Oui. C'est vrai.
Alors, j'ai l'impression que c'est justement seulement une crème d'amande, peut-être. Et que c'est pas une frangipane.
Alors, vous avez presque raison. C'est une crème d'amande, mais avec un tout petit peu de frangipane, mais pas trop, parce que justement le pâtissier qui a derrière cette galette veut préserver le goût de l'amande. Lequel goût d'amande est rehaussé par une touche de rhum. Et c'est vrai que le rhum a cette vertu vraiment d'exhauster comme ça le goût de l'amande. Ce sont de très bonnes amandes d'origine espagnole. Et moi j'aime beaucoup aussi le feuilletage qui crisse sous la dent. Vous savez un peu cette sensation du pas dans la neige fraîche. Comme ça, il y a un côté très agréable. Vous l'aimez ou pas?
Ouais.
Et personne n'a la fève?
Non.
Non mais je rêve.
Pas un cœur.
Non moi non plus.
C'est peut-être moi alors qu'il est. J'ai pas eu le temps de croquer parce que quand je parle au micro, bon bah tant pis. Hein.
Ah, un carré.
Ah, allez, on applaudit notre reine.
Ouais, j'ai craqué.
Carrie Solomon, reine de l'émission, et ça nous va. Bravo, Carrie. Et on va vous mettre une couronne sur la tête. Les auditeurs ne vont pas trop s'en apercevoir, mais bon, en tout cas, je peux vous dire que cette galette est signée, attention, Lionel Bonami, de la Fabrique aux Gourmandises. On est dans le 14e arrondissement de Paris. Non seulement cette galette a un pédigré, puisqu'elle a gagné en 2021 le premier prix de la galette d'Île-de-France, attention, ce n'est pas rien tout de même, mais en plus, elle est d'un rapport qualité-prix tout à fait honorable. Cette galette pour 6 est à 24 euros, mais en fait, c'est une galette tellement généreuse qu'en réalité, elle est pour 7 à 8 personnes, d'autant qu'on l'a pesée. Elle pèse 550 grammes, c'est tout à fait colossal, il y a beaucoup de matière dans cette galette. Et ce prix est d'autant plus une performance que Lionel Bonami me confiait vendredi au téléphone qu'il était dans une situation très très tendue, vous connaissez la situation de nos artisans boulangers pâtissiers, à cause de sa facture d'électricité qui va monter en flèche, à cause également du prix des matières premières qui flambe. Le prix du sucre vient de doubler en une semaine. Il y voit évidemment un effet tout à fait spéculatif à un moment où les artisans boulangers pâtissiers ont besoin de cette matière première, ont besoin de sucre. Les œufs sont beaucoup plus chers à cause de la grippe aviaire, bref, sans aucun jeu de mots. Nos amis boulangers sont dans le pétrin et ils vont d'ailleurs se faire entendre dans la rue le 23 janvier prochain. Voilà la galette de Lionel Bonami, la Fabrique aux Gourmandises, 82 rue de l'Amiral Mouchet. On est dans le 14e arrondissement de Paris. On vous a mis également sur notre site internet une sélection de nos galettes préférées à Paris, mais également en région. On ne vous a pas oublié en région, amis auditeurs et auditrices. C'est sur notre page internet, alors avec des valeurs sûres qu'on adore, comme celle de Pierre Chauvet à Aubenas, en Ardèche, mais aussi des découvertes comme l'excellente galette de tapisserie, la boulangerie du chef Bertrand Grébeau avec deux adresses parisiennes dans le 11e et le 7e arrondissement. Vous opinez du chef?
J'avais goûté l'année dernière, j'avais beaucoup aimé.
Zazie, c'est vrai? La galette de tapisserie, elle est vraiment très chouette. Et puis au chapitre de la galette des rois, je voudrais donner un coup de chapeau à la galette des reines. Vous en avez entendu parler, Zazie, de cette opération?
Non, bizarrement.
Eh bien écoutez, c'est une opération créée par Clarisse Ferrer, Fréchon et son agence de communication Melchior. Le principe est simple. Deux chefs pâtissières, Myriam Sabet de la Maison Alep, ou Maison Alef, et Nina Métayer de Délicatisserie. Et d'ailleurs, on a regardé cette superbe galette de Nina Métayer. Elle est absolument superbe avec sa dentelle de feuilletage et son cœur pistaché. On va la goûter ensemble après l'émission. Elle est vraiment, moi je l'ai déjà eu la chance de la goûter, elle est vraiment excellente. Et ces deux chefs pâtissières accompagnés de Julie Mathieu et de Muriel Talandier, les cofondatrices de Food Pâtisserie, eh bien écoutez, elles vont vendre chacune leur galette signature dans la boutique Food Pâtisserie Montorgueil. Ça se passera le samedi 14 janvier prochain et les bénéfices seront reversés à la Maison des Femmes à Saint-Denis, un lieu entièrement dédié à l'accompagnement des femmes en difficulté et même victimes de violences. Voilà une belle opération. La galette des reines, une opération caritative inédite portée par des femmes pour des femmes. C'est ce qu'on pourrait appeler de la sororité très inspirée. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Benjamin Troncin à la technique, Fabrice Rivaud pour la préparation et la coordination et Djoubaka pour la programmation musicale. Dans un instant avec nos invités Samir et Carrie, voyage au cœur de la cannelle. Et pour l'instant, on voyage avec Bernard Lavillier. Les Porteños sont fatigués. Bon appétit sur France Inter.
Sont fatigués les Porteños, fatigués toujours de l'avoir dans l'os. Inflation, chômage et des promesses, pays du futur, mais rien ne presse. Traîne un peu les pieds dans l'inflation, qui bat des records, nous dit-on. Ils sont très lucides et cultivés, mais les Porteños sont fatigués. Alors Chabon, n'oublie pas, Ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés. Mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués. Par les temps qui courent, investisseurs ne sont plus beaucoup à faire des fleurs. Et quand il n'y a plus rien à raqueter, il te reste tes yeux pour pleurer. Terminer les rêves d'argenter, c'est pour les poètes et pour la rime. Douloureux dollar les a usés, oui les porteños sont épuisés. Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés. Mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués. Alors chaman, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés. Mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués.
C'est juste après le poivre, l'épice la plus cultivée, la plus consommée et la plus diffusée dans le monde. Question ouverte pour nos deux invités, Samir Origagli et Carrie Solomon. Comment la cannelle est devenue un tube planétaire?
Moi, je dirais c'est à cause de sa convivialité, le côté ça réchauffe. On trouve la cannelle sur les tables de fête, le Thanksgiving, le Noël, mais aussi en Amérique du Nord et en Europe.
Le côté réchauffant, donc vous diriez que la cannelle est plutôt une épice de saison?
Je dirais que c'est... La cannelle, on peut manger toute l'année, mais... Surtout, bah, pour moi, aux États-Unis, on le trouve vraiment à partir du mois de septembre, dans le apple pie, dans la tarte à la pomme, la tarte au potiron pour le Thanksgiving.
Pumpkin pie.
Exactement. Et c'est une épice très, bah, très conviviale, qui devient quasi omniprésent au moment de fête, surtout en Amérique du Nord.
En voilà une bonne raison. Samir, qu'en pensez-vous?
Elle est puissante, elle est envoûtante, elle est effectivement chaude. Comme l'a dit Carrie, elle a un côté intrigant, moi je trouve aussi. Enfin, moi je trouve ça comme très étonnant. C'est comme la seule écorce qu'on consomme, qu'on utilise dans la cuisine.
C'est vrai, et quand on y pense.
Ouais. Et c'est quand même, enfin, c'est ça aussi, ça fait partie quand même un peu du charme de cette épice. Et c'est vrai qu'elle s'est pas mal, comme vous l'avez dit, hein, elle. Il y a un côté un peu concorde universelle avec la cannelle. Elle plaît dans toutes les cultures, dans tous les pays du monde. Elle a réussi à s'adapter. On a réussi à l'utiliser aussi bien en salé qu'en sucré. Et comme, oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Carrie, effectivement, c'est une épice d'hiver. L'hiver, c'est un peu le tapis rouge pour la cannelle. C'est cette saison où elle sera la reine. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée en 2009 pour faire sentir l'odeur de cannelle à des personnes en hiver et en été. Et en été, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça beaucoup moins agréable qu'en hiver.
Et c'est vrai qu'on l'utilise moins en même temps.
Et dans la société occidentale.
Son pouvoir réchauffant est même prouvé, ou en tout cas étudié, depuis le Moyen-Âge. Écoutez bien ce qu'écrivait l'abbesse Hildegard de Bingen, naturaliste et médecin allemande du XIIe siècle. La cannelle est très chaude et a beaucoup d'énergiques propriétés. Elle a également en elle une certaine humidité, mais sa chaleur est si forte qu'elle fait disparaître l'humidité. Et celui qui en mange souvent fait disparaître en lui les humeurs mauvaises. Donc la cannelle a presque, bah, évidemment, des propriétés médicinales, mais aussi des pouvoirs magiques.
Des pouvoirs magiques. Oui, en fait, finalement, la cannelle, ce bâton, c'est une baguette magique. C'est la baguette magique de la cuisine. Et qui va apporter non seulement, justement, des notes très épicées, très suaves, qui va flatter, en fait, les différents aliments sur lesquels on va la mettre. C'est un peu le blaze dans la feuille des grandeurs, vous voyez. Flattez-moi blaze, bah, c'est un peu la cannelle, finalement. Et elle se marie, en fait, finalement, avec beaucoup, beaucoup d'éléments. Aussi bien avec, bah, comme on le sait, avec des fruits. La pomme, un grand classique.
Ah oui, c'est même
la pomme, la
poire,
l'orange. Ah, totalement. La pomme, c'est à la vie, à la mort. Mais également, on peut aller sur d'autres... Enfin, nous, par exemple, au Maroc, on fait beaucoup de sucré salé avec la cannelle. Il y a beaucoup de tagines avec des raisins secs, des pruneaux et des viandes hein, également. Et il y a un plat qui est vraiment typique marocain, qui est la pastilla. Ce plat de fête, vous voyez certainement ce plat de fête avec les pâtes feuilletées.
Ah là là, du... mes plats préférés.
Ah mais un plat
la version différent. Pigeon.
La version pigeon qui est succulente.
Là, on évoque la galette des rois. la galette des rois marocaine, en fait. On a vraiment un entourage particulièrement feuilleté et croustillant, un cœur très moelleux avec des raisins secs, un côté sucré-salé, effectivement, à base de chair, de pigeon.
De pigeon ou de poulet, de volaille, effectivement.
Voilà, et de volaille. Et puis, c'est tapissé de sucre glace et de cannelle.
Exactement, avec des jolis losanges. Enfin, effectivement, on met tout un tapis de sucre glace et on fait des petits losanges au-dessus avec de la cannelle pour rappeler justement la cannelle qui est déjà à l'intérieur avec les amandes.
Et on précise juste au rayon des propriétés médicinales, hein, et ça a été prouvé assez récemment à travers des études, que l'huile essentielle de cannelle stimule les systèmes circulatoires, respiratoires et cardiaques. Elle est également antispasmodique. Elle a une action antiseptique. C'est une championne en matière d'antioxydants. Autant de raisons de consommer de la cannelle, même si on y va évidemment avec modération. Au rayon botanique, Samir Ourigli, on aimerait y voir plus clair. J'ai dans ma main deux types de cannelle qui, effectivement, ont un lien de parenté, ça c'est évident. Ce sont des rouleaux, en fait, ce sont des écorces d'arbres enroulées sur eux-mêmes, enroulées sur elles-mêmes, mais elles ont toutefois des différences. Et ça correspond aux deux principaux types de cannelle, qu'on peut trouver.
Exactement. En fait, la cannelle, ça fait partie de la famille des Lauraceae. Cette famille, c'est la famille de la noix de muscade, de l'avocat, par exemple. Et il y a près de 200 types. Enfin, ensuite, c'est le genre Cinnamomum. Et il y a 200 types de cannelles différentes. On en connaît quelques-unes qu'on a communément, sur les étals ou dans les boutiques. À savoir celle de Ceylan, qui est considérée comme étant la plus fine, la plus élégante, la moins exacerbée, et celle de Chine, cassia. Donc Cinnamomum verum, celle de Ceylan. Ceylan, pardon, excusez-moi, c'est l'ancien nom de Sri Lanka, pour cas où. Et celle de Chine, donc Cinnamomum cassia. Et Cinnamomum cassia, qui elle, est beaucoup plus épaisse, c'est vraiment de la vraie écorce.
Mais d'ailleurs, on les voit d'ailleurs, hein. Il y en a une, la cassia, celle de Chine, qui est davantage écorce d'arbre,
oui.
Et plus foncée d'ailleurs en termes de couleur, alors que celle de Ceylan, on a plus l'impression d'un parchemin enroulé avec une couleur plus claire.
Tout à fait. Et effectivement, cette finesse de goût, on la retrouve également dans l'aspect. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, en France, c'est essentiellement la variété cassia qu'on retrouve le plus.
Donc vous êtes en train de dire qu'on trouve celle de Chine qui a priori entre guillemets la plus vulgaire, ou en tout cas la plus répandue, c'est-à-dire la plus ostentatoire en termes d'arôme.
Exactement. C'est très juste, la plus opulente, voilà, la plus généreuse.
On peut parler comme ça, mais il est vrai que, je me suis tourné notamment du côté de la littérature d'Olivier Rollinger, évidemment, le chef de Cancale, qui s'y connaît en termes d'épices, qui dit que la cannelle de Chine ou la cassia, ou cassia en latin, goût très prononcé, très boisé, très poivré, voire même réglissé, là où la cannelle du Sri Lanka ou cannelle de Ceylan est plus délicate, plus charmeuse, plus florale.
Oui, presque des notes d'agrumes aussi.
C'est quelle cannelle que l'on trouve aux États-Unis, Carrie?
Alors, je pense que c'est aussi le cassia qu'on trouve le plus souvent. Mais je me suis dit aujourd'hui que j'avais envie de faire une recette avec le Ceylan, parce que je cuisine souvent avec le cassia. Et j'étais curieuse de voir si
on va voir si c'est réussi. On va goûter dans un instant votre très très belle spécialité. Justement, en termes de composition organoleptique, en termes d'arôme, il y a assez peu de différence entre les deux cannelles finalement.
Alors effectivement, c'est moins flagrant qu'on va dire une pomme sucrée ou une pomme acide. Mm-hmm. Voilà. Mais effectivement, il y a des légères différences. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la cannelle de Ceylan a moins de coumarine. La coumarine est un des composés de la cannelle qui est considéré à très haute dose comme étant toxique.
C'est pour ça que je disais qu'il fallait effectivement y aller avec modération.
Mais c'est avec les épices, c'est souvent ça qui... il faut avoir l'audace de la légèreté.
La coumarine, c'est ce qui apporte, pardon Zazie, un côté un peu boisé.
C'est ce qui apporte ce côté, effectivement,
boisé. C'est ce qui va donner ce caractère très particulier à la cannelle de Chine. Et cette coumarine, enfin, quand je dis les normes européennes, indiquent qu'il faut en consommer maximum 2,5 grammes par jour de cannelle. 2,5 grammes par jour, c'est quand même beaucoup quand on pèse ça dans une petite coupelle.
Zazie,
je me demandais pour les auditeurs comment savoir quand ils achètent la cannelle moulue si c'est de la casse ou de la cannelle de Ceylan.
Très bonne question parce que j'ai des fioles. J'ai effectivement une cannelle, alors on va dire sourcée par un spécialiste des épices, en l'occurrence c'est Terre Exotique. Là on précise effectivement cannelle de Ceylan. En revanche, le tout venant, et pour rejoindre la question de Zazie, lorsqu'on a uniquement écrit cannelle, on se vante pas forcément de vendre de la cannelle de Chine.
Alors malheureusement, avec les épices de manière générale dans la grande distribution, la seule transparence qui est liée, c'est celle des dépôts. Ce qui est mauvais pour les épices, de manière paradoxale. Et il y a une opacité totale par rapport à l'origine des épices. Donc, c'est très dur de savoir. Et effectivement, j'ai essayé de faire des recherches pour savoir celles qu'on avait dans les rayons de manière générale. Et j'ai pas trouvé vraiment d'informations. Sachant que les grands pays producteurs, c'est quand même, l'Indonésie, le Vietnam,
La Chine,
exactement, les trois premiers pays producteurs. Donc voilà, on peut soupçonner que ça vient d'un de ces pays, mais malheureusement, effectivement, il y a très peu de traçabilité par rapport aux épices dans la grande distribution.
Cannelle très très consommée, on l'a dit, aux États-Unis, pas du tout produite aux États-Unis. Il n'y a pas de climat pour ça, mais en revanche, vous êtes vraiment des champions planétaire. Fabrice Rivaud, qui prépare l'émission avec moi, a mis la main sur des chiffres qui indiquent la consommation mondiale de cannelle en 2016. Écoutez bien. 170 grammes de cannelle par an et par habitant en Indonésie, ce sont les champions du monde. Juste après, les États-Unis avec 80 grammes par habitant et par an, c'est colossal. Vous êtes les deuxièmes consommateurs de cannelle au monde. Très très loin, derrière le troisième qui est la Chine avec 26 grammes. Et même l'Inde, dont on pourrait penser qu'ils sont des grands consommateurs de cannelle, seulement 19 grammes par personne et par habitant. Vous êtes à 80 grammes, c'est absolument colossal. Comment vous expliquez que la cannelle ait été à ce point une épice aussi répandue aux États-Unis ?
Je parle pour moi-même et depuis mon enfance et depuis beaucoup d'enfance, on va dire, des Américains et des habitants d'Amérique du Nord, on trouve ça dans le porridge du matin, dans les céréales du petit-déj.
Dans les chewing-gums.
Exactement, dans le Big Red.
Dans le dentifrice.
c'est vrai, c'est un peu partout. Mais j'en reviens pas à cette chiffre de 80 grammes par an.
C'est colossal.
Que je pense à la recette que j'ai fait aujourd'hui et j'ai mis 20 grammes et ça fait 12 roulés à la cannelle. Je fais la maths, donc ça veut dire que 50 roulés à la cannelle par an, ça revient.
Ça paraît pas si énorme.
Ouais, ça paraît pas si énorme en fait. Allez, ben on y est justement.
Bon, les miens sont assez dosés.
Cinnamon roll, et j'observe au passage que cinnamon, ça vient directement en fait du nom latin pour cannelle. C'est-à-dire que les anglo-saxons ont emprunté le nom latin pour désigner, pour baptiser cette épice.
Mais je crois dans des vieilles recettes, on parlait de la cinnamon, et après c'est devenu la cannelle. On a juste changé le nom, mais cinnamon c'était le nom en vieux français de la cannelle.
Oui. Absolument.
Et dans la Bible également. Parce que la cannelle est une des seules épices citées dans la Bible comme étant justement, un des aromates les plus précieux. Et effectivement, toujours sous ce nom de soit cinnamon. Donc voilà, et pour exalter l'amour, c'est ça qui est intéressant, même dans la Bible.
Ah oui, carrément, on y va. Allez, on attaque 2023 sur des bases tout à fait élevées et romantiques. Cinnamon roll, on y va, c'est parti. Définition, c'est un escargot de pâte ?
On peut dire que c'est un escargot. C'est une pâte briochée qui est aplatie. Après... j'étale une mélange de sucre vergeoise avec cannelle. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, c'était du Ceylan pour moi. Et puis je roule comme un escargot. Et après, je coupe en morceaux et je mets ça au four 20 minutes.
La pâte est une pâte briochée, mais également levée, on est d'accord?
Oui.
Les ingrédients pour une bonne pâte d'un cinnamon roll?
Alors, un œuf, 80 grammes de beurre, 80 grammes de sucre, 180 millilitres, de lait entier, 500 grammes de farine. Et on fait pétrir ça, on laisse poser entre une heure et demie. Et après, comme je disais, on étale cet appareil, cette farce à la cannelle dessus. Et puis, le moment magique pour moi, c'est quand il y a sept parfums. Oh, je perds
Vous avez perdu votre couronne ?
Oui, voilà.
Ah, voilà, vous n'êtes plus la reine. Nous avons guillotiné la reine dans le studio 521.
Ça a été vite.
Je disais juste, voilà, le moment magique, c'est quand le parfum de cannelle est si envoûtant dans la maison. Je faisais ce matin et après, ça sort du four. Et là, j'ai fait un glaçage au mascarpone.
Un glaçage au mascarpone. Mmh. Alors, quand on parle de glaçage, c'est cette espèce de bariolage,
zigzag.
Qui vient coiffer les cinnamon rolls, et ça se passe après la sortie du four.
Exactement. J'attends même un petit peu, parce que sinon ça coule tout de suite. Et là, j'ai eu l'aide ce matin par un de mes enfants. Et c'est une recette, bon, ça prend un peu de temps, on ne fait pas ça tous les matins, mais c'est un chouette projet de week-end en famille, c'est là où ça se passe très souvent chez moi.
On a même le droit de faire lever sa pâte, de la laisser reposer pendant la nuit, et
on peut faire ça
et
aussi,
de composer ses rolls
oui,
le matin.
Il faut mettre au frigo, par contre, oui, la pâte.
Il faut mettre au frigo, sinon... Mais elle est, il est très bon, hein, ce cinnamon roll, et en plus il y a de la cannelle, mais pas en excès. Je suis sûr que Lauren Thomas, notre réalisatrice qui déteste les cannelles, qui n'avait absolument pas envie de faire cette émission... Et je suis sûr qu'elle pourra en manger des cinnamon rolls. On va t'en garder un, Lauren, pour accompagner ces cinnamon rolls. Un autre dessert qui peut très bien s'adapter au brunch du dimanche matin. C'est un dessert classique marocain que nous a apporté Samir.
Exactement, une petite salade d'orange. Salade d'orange, on va enlever,
la
peau des oranges, tout simplement. On va tailler en fines tranches. Mmh. Et on va disposer dans une assiette en forme de rosace et
ouh
et on va râper la cannelle dessus parce que idéalement mieux vaut la râper directement.
Ah, alors là attendez, c'est important, on n'utilise pas de cannelle en poudre, on râpe plutôt sa cannelle issue d'un bâton
idéalement. Exactement.
Pour quelle raison ?
Mais pour qu'elle garde justement toutes ses qualités organoleptiques, pour qu'elle ait toute sa saveur, pour qu'elle ait toute sa fraîcheur, pour qu'elle ait tout son arôme et sa personnalité.
Et ce n'est pas valable qu'avec la cannelle d'ailleurs, le poivre c'est la même chose.
Exactement.
Le café, on le moue, on préfère le moudre sur le moment.
Exactement.
Parce que les molécules aromatiques sont très volatiles, c'est ça ?
Oui, elles sont volatiles. Après bon, on peut aussi moudre une grande quantité dans un petit moulin à café, justement, une fois par mois, et le conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc voilà, ça passe forcément s'éventer directement, mais c'est encore meilleur quand on le fait. Et d'ailleurs, c'est presque jouissif d'utiliser la microplane et de râper en direct.
Orange, tranche d'orange, cannelle râpée en direct, ainsi que quelques pignons torréfiés.
Quelques petits pignons de pain torréfiés pour rappeler ce côté justement boisé. Moi j'aime bien, je trouve ça se marie bien avec cette épice.
Les cannelles et oranges, c'est formidable. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ?
C'est délicieux, ça se marie vraiment bien, la fraîcheur de l'orange et un peu le côté chaleureux de la cannelle. Et ça va aussi très bien avec le cinnamon rolls, les deux ensemble.
Ça s'équilibre bien.
Ça s'équilibre bien.
Voilà, super brunch au menu dont on va déguster. Épreuve que la cannelle s'entend très bien avec les fruits d'automne et les fruits d'hiver, dont les agrumes. La cannelle dans les plats salés, on y vient. Notre chroniqueur Jean-Mata Cristol ouvre les hostilités.
France Inter.
Alors j'aimerais commencer l'année par une bonne nouvelle, une note positive pour affronter janvier.
Ouais.
Le réchauffement climatique, qui risque de submerger une partie des côtes, tout en déréglant durablement nos modes de vie, pourrait bien également signer la fin de la culture des endives. C'est donc une excellente nouvelle pour tous les gens qui ont du goût.
Oh là.
Et oui, chaque fois qu'on essaie de me faire manger des endives, des concombres ou de la cannelle...
Ah, on y vient, c'est pour ça.
C'est à base de « tu vas voir, tu n'as jamais mangé ça ». Et c'est vrai, je n'ai jamais mangé ça et je ne veux plus jamais en manger. La cannelle souffre, selon moi, d'être trop utilisée, comme l'extrait de vanille, ou l'arôme de noix de coco. C'est une espèce de trilogie infernale qu'on retrouve dans les gels douches, les bougies parfumées et les desserts industriels, avec à chaque fois l'accent mis sur l'odeur, le parfum plutôt que le goût lui-même. Alors je parle surtout des desserts ici, ne mangez pas de bougies chez vous. En réalité, je n'aime de la cannelle que le nom que sa forme a donné aux cannelloni, et je la supporte principalement...
Ah, j'y avais pas pensé.
Ah, bah oui, le rouleau, la cannelle, cannelloni.
Ouais.
Et je la supporte principalement lorsqu'elle est associée ou
peut être caché dans des mélanges aigre-doux ou sucré-salé.
Et ben justement, on y vient. On en a parlé un peu avec Samir et les traditions marocaines, mais il est vrai que la cannelle ou les cannelles ont des profils aromatiques qui fonctionnent aussi très bien avec la cuisine salée, pas seulement les desserts.
Oui, parce qu'elle va lui donner de la puissance, une certaine longueur en bouche, mais tout est question de dosage, comme toujours. Peut-être que la multitude de spécialités salées, dans laquelle on l'a retrouvée, on la retrouve encore, la cannelle est le contrepoint non pas des végétaux, mais plutôt de la chair animale. Au XIVe siècle, bien qu'on connaisse le poivre, il est toujours dépassé par la cannelle, le gingembre et le safran. Un chercheur a estimé que 67% des recettes écrites qui nous sont parvenues du Moyen-Âge contiennent de la cannelle, seule ou dans un mélange d'épices, et pour nos goûts actuels, sûrement pas là où on l'imaginerait, avec du lièvre ou de la perdrix, par exemple. Peut-être qu'à cette époque, c'est la protéine animale qui fait le pont entre la cannelle et les végétaux plutôt que l'inverse. La cannelle moulue est boisée, piquante parfois, fumée, torréfiée peut-être, florale au palais, camphrée par moments. Et dit comme ça, on est plutôt dans le champ lexical du gibier, des venaisons ou du barbecue. De nos jours, on peut résumer à grands traits que la cannelle serait plutôt sucrée en Occident et sucrée salée, ou seulement salée, pardon,
c'est ça,
en Orient.
Clivage très intéressant.
Donc, chaque grande zone géographique veut utiliser la cannelle en bâton pour infuser un court bouillon ou une vapeur, là où la cannelle en poudre sera mélangée à d'autres épices, également moulues, pour former des mélanges que vous connaissez. Alors, le 4 épices, le 5 épices, vous connaissez le garam masala, et puis vous en connaissez peut-être d'autres qui sont pas moins répandus peut-être, comme le baharat moyen-oriental, le 13 épices chinois, le biryani masala indien, la pâte de curry vietnamienne ou encore le barbecue rub américain qu'on frotte littéralement sur la viande avant de la griller.
Vous confirmez qu'il y a de la cannelle dans le barbecue rub,
curry? Oui, je confirme.
Donc pour ma part, je suis sorti de ces figures imposées puisqu'aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser la cannelle comme épice principale sous ses deux formes, en poudre comme un assaisonnement et en bâton pour communiquer son goût à un liquide. Donc je vous ai distribué des assiettes. Donc
nos assiettes sont remplies.
Alors, les bâtonnets colorés, sont des légumes que j'ai fait cuire après avoir grillé du lard avec de la cannelle. Donc j'ai fait des gros...
C'est bon, ça.
J'ai fait des gros cubes de guanciale et que j'ai fait dans lesquels j'ai mis un petit peu d'eau. Quand vous faites colorer du lard, mettez toujours un petit peu d'eau parce que l'eau en s'évaporant ensuite va faire mieux caraméliser le lard.
Bref. Là, le guanciale, vous évoquez hein, la joue de cochon salé.
Voilà. Donc avec une demi-cuillère à café de cannelle et ensuite j'ai fait sauter mes carottes dedans. Donc il y a de la carotte jaune, la carotte orange et puis du navet que j'avais blanchi au préalable pour que le goût du navet n'emporte pas celui de la cannelle.
C'est délicieux. Et là, la cannelle, elle n'est pas dans le registre habituel. C'est vrai qu'on sent une note chaude et boisée. Vous avez mis la quantité qu'il faut pour qu'on la cannelle ne nous saute pas aux papilles, quoi.
Oui, parce que en fait, on en parlait tout à l'heure. La cannelle peut les arômes de la cannelle sont liposolubles et hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils vont se mélanger à la fois au gras et à la fois à l'eau. Donc, j'ai joué sur ces deux façons de travailler. Voilà, vous assaisonnez à convenance. J'ai mis un petit peu d'origan dedans.
Mais Jean, est-ce que vous-même qui, donc on a compris, n'êtes pas fan de cannelle, c'est votre point commun avec notre réalisatrice. Est-ce que vous avez apprécié votre propre recette?
En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant.
D'accord.
Mais c'est bon.
La langue de bois, plutôt la langue de cannelle.
Vous savez, à une époque, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en faisant les recherches, j'ai trouvé une expression dans le dictionnaire de l'académie qui disait « réduire en cannelle », probablement parce qu'à une époque, la cannelle arrivait en rouleau et on la réduisait en petits morceaux, ou elle arrivait réduite en petits morceaux. Et donc, réduire en cannelle, ça veut dire vraiment mettre taillé en pièces, quoi.
C'est ça.
Voilà, ça c'était donc ma première recette. Pour ma deuxième recette, je suis sorti du registre de la viande, je suis allé sur du poisson.
Bonne idée.
Elle est un peu plus contestable, hein, parce que cannelle et poisson, c'est pas criant. Mais il faut goûter avant de dire qu'on n'aime pas. Hein. Donc c'est poisson blanc, coco, cannelle.
C'est hyper intéressant. Au début, je me suis dit pourquoi. Pardon de couper. Je me suis dit pourquoi on a un petit bout de poisson blanc dans notre recette. Et en fait, ça doit être infusé dans de la cannelle.
Alors c'est infusé dans du lait de coco.
J'ai fait bouillir
mon lait de coco et j'ai fait bouillir avec deux bâtons de cannelle, j'ai laissé complètement refroidir et donc ce matin ensuite, j'ai refait bouillir et j'ai poché sur mon poisson que j'ai fait pocher comme ça au gradient descendant.
J'aime beaucoup. C'est très délicat.
Et donc normalement, vous voyez, il y a une petite boîte avec de la coriandre qui allait dessus et j'ai complètement oublié de mettre la coriandre.
Mais même sans la coriandre, je peux vous assurer que c'est très bien. Et cannelle de Ceylan, hein. Alors, vous avez choisi votre camp.
Non, je suis sûr de la cannelle en tube, puisqu'en fait, moi, mon camp, c'était plutôt de me dire sur le format de la cannelle qu'on utilise en cuisine, donc infusée en bâton, ou plutôt en poudre, comme on utiliserait des épices déjà moulues.
Oui, mais on pourrait vous embêter en vous disant que la cannelle de Ceylan, on peut aussi l'utiliser en tube. Hein.
Embêtez-moi, il n'y a pas de problème, je soutiendrai la position. Voilà, après, donc je parlais de coriandre, mais comme c'est du poisson, ça fonctionnera avec des herbes aromatiques qu'on met traditionnellement avec du poisson. Et donc, j'ai essayé ça pendant les vacances, donc la photo sur le site, c'était pendant mes vacances, où j'ai
j'ai fait ça avec de l'aneth. Et là, dans votre assiette, il y avait également un petit peu de jus de citron vert. Et pendant mes vacances, quand je l'ai essayé, j'avais mis une feuille de citronnier pour faire infuser dans le lait de coco, une feuille de kéfir. Pour faire infuser dans le lait de coco au moment de faire la recette.
Très très bien, bravo. Hein. En plus, deux usages tout à fait inattendus de la cannelle, l'un avec des légumes et du lard, l'autre avec un poisson façon un peu curry ou lait de coco, coriandre fraîche, etc. Vos tours de main et vos recettes, Jean-Baptiste Christol, sont sur franceinter.fr à la page On va déguster. La cannelle en France, la détestation de la cannelle, est-ce qu'il y a un pourquoi tout ça? Ce sont des questions que l'on évoque après ça. Le collectif de jeunes californiennes drug dealers avec la chanteuse américaine Kate Bollinger, Pictures of You, c'était le titre de cette chanson de la playlist de France Inter. La cannelle, une épice universelle et caractérielle au menu de notre émission.
On va déguster sur France Inter.
Les questions d'auditeurs et d'auditrices se bousculent sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com, mais également depuis le bouton réagir, depuis l'appli mobile de France Inter. Des auditeurs nous rappellent qu'elle est très utilisée au Mexique, dans le thé, le chocolat et les pâtisseries, mais également en Asie. On pense au feu vietnamien qui ne peut pas, dont le bouillon ne peut évidemment pas se faire sans cannelle. En Inde, mais ça, Jean a commencé à nous en parler. On la retrouve dans le chai notamment et dans pas mal de mélanges d'épices, dont le garam masala. Pardon, je suis un peu dyslexique. Et Bernard de Versailles nous signale qu'en Europe, si on a autant de cannelle, c'est principalement par la voie des Pays-Bas, via les comptoirs développés en Indonésie et en Sri Lanka, que la cannelle a diffusé son influence, et notamment dans toutes les régions du nord de l'Europe. Alors on pense évidemment aux spéculoos belges.
Tout à fait.
Définition d'un spéculoos, ça vient. Définition du spéculoos.
C'est un biscuit. Oui, c'est un biscuit sec, assez fin, assez plat, de couleur cannelle, de couleur un peu
marron.
Cassonade.
Effectivement, on met un sucre qui est assez foncé dedans, qui est la cassonade, qui n'est pas le même sucre cassonade qu'on trouve en France d'ailleurs, qui est beaucoup plus goûtu en Belgique. Et également des épices, dont la cannelle.
Alors il y a la cannelle, mais il y a aussi visiblement le gingembre et le clou de girofle. Absolument. Il y a une auditrice qui nous signale que les cinnamon rolls que vous avez faits ne sont que les cousins d'outre-Atlantique, des cannelles bullard. Il est vrai qu'on a aussi ces viennoiseries à la cannelle en Suède, au Danemark et dans les pays scandinaves. Et puis enfin, certains nous signalent qu'aux Caraïbes, évidemment, il n'y a pas de rhum arrangé sans cannelle, bâton de cannelle. Vous avez d'autres réactions, Zazie ?
Oui, il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui nous donnent des recettes aussi. Il y a Christelle qui nous dit que sa grand-mère italienne qui venait de Vénétie, elle préparait souvent des spaghettis aux anchois al dente avec une sauce juste faite d'anchois, de l'huile fondue et une bonne pincée de cannelle.
Ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que les épices sont pas forcément trop cuisinées en Italie. Enfin, même si du côté du Trentino Alto Adige, la frontière avec l'Autriche, on fait un strudel aux pommes et à la cannelle. Mais Venise a encore une petite trame épicée, et ça, c'est peut-être le souvenir de son grand passé de comptoir d'épices. Et de porte d'entrée des épices en Europe.
Oui, exactement. Comme l'a été Gênes également, effectivement. Et en plus, Venise a cette proximité avec l'Autriche, avec l'Empire austro-hongrois, exactement. Justement, qui a beaucoup utilisé la cannelle, et qui utilise toujours beaucoup la cannelle actuellement.
Zazie ?
Bon, il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui n'aiment pas du tout la cannelle, comme Lucas, qui dit, peut-on ne pas aimer la cannelle ? C'est mon cas.
Eh ben, voilà. On y vient. C'est une question très intéressante. La détestation de la cannelle. C'est vrai qu'il y a un mystère en France, qu'il y a un vrai clivage autour de la cannelle. On l'adore ou on l'aborde, mais il n'y a pas de juste milieu. Au doigt mouillé, comme ça, si on faisait un sondage, on se rendrait compte que c'est une personne sur quatre ou une personne sur cinq qui n'aime pas la cannelle en France.
Ça paraît énorme.
Alors qu'aux États-Unis, tout le monde l'aime.
Je dirais.
Non, mais il n'y a pas de...
C'est pas clivante comme en France.
Il n'y a pas la team contre et la team
non,
pour.
Non, il n'y en a pas.
Ce rejet est-il génétique ? Comme un peu pour la coriandre fraîche ? Ça correspond, c'est une histoire de gènes ? Ou est-ce que c'est culturel, Samia ?
C'est plutôt culturel. Contrairement à la coriandre, effectivement, les feuilles de coriandre, où il y a vraiment ce côté, il y a le gène qui nous empêche d'apprécier les feuilles de coriandre. Pour la cannelle, c'est pas le cas. La cannelle, en fait, comme ça a été dit, effectivement, ça a été extrêmement utilisé pendant des siècles, jusqu'à deux tiers des recettes utilisaient des épices et essentiellement de la cannelle. Mmh. Et petit à petit, on a oublié la cannelle. Pourquoi ? Parce que la cannelle, au Moyen-Âge, à la Renaissance, c'était une épice. Les épices coûtaient cher. Parce
et une épice très utilisée. Ce que disait Jean dans sa chronique, Bruno Lorioux, médiéviste, historien, indique que 67% des recettes du Moyen-Âge en France comportent de la cannelle. C'est considérable. Aujourd'hui, dans le répertoire français, finalement, il y a l'Alsace, il y a éventuellement la Teurgoule normande qui comporte de la cannelle. On met un peu de cannelle avec les pommes au four, mais ça s'arrête là, quoi.
Exactement.
Toujours dans le registre sucré et plus du tout dans le registre salé. C'est à part dans le 4 épices, quoi.
Ouais, voilà.
Dans la terrine, un petit peu de 4 épices ou des choses comme ça, ou dans le foie gras.
Ou dans le pain d'épices.
Ouais. Qui reste sucré, effectivement, aussi, ouais. Et petit à petit, en fait, on a délaissé les épices. Pourquoi ? Parce que les épices, comme je l'ai dit, finalement, c'est un marqueur social. Ça permettait de montrer qu'on était riche. Et typiquement, les épices, il n'y avait que les riches, les bourgeois et la noblesse qui pouvaient les utiliser. Et à partir du moment, fin 17e, début 18e siècle, où c'est devenu un peu plus accessible, les grands ont un peu délaissé les épices, y compris la cannelle. Et la cannelle est restée dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, les pays allemands, germanophones, effectivement. Et en France, on l'a complètement délaissée.
Elle a un peu disparu, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, elle est, on l'a dit, très clivante avec des gens qui la détestent. Carrie Solomon, on est américaine en France, c'est votre cas. Vous êtes cuisinière. Comment vous arrivez à faire apprécier la cannelle à vos clients français? Et quel risque éventuellement vous avez pris? Je crois qu'il y a une anecdote assez rigolote autour d'un crumble.
Alors, j'avoue, je vais assez doucement avec la cannelle en France. Le crumble, pour un client, une fois, j'avais fait un crumble pomme-cannelle et ça avait un succès un peu moyen. Mais quand j'ai fait un crumble gingembre avec une petite pincée de cannelle aussi, ça avait un super succès.
Et pourtant, associer la cannelle avec d'autres épices,
ça s'associe très bien. Et pourtant, il faut dire que le gingembre, c'est assez, on va dire, épicé, mais ça passe mieux parmi certaines personnes que la cannelle. Et j'associe souvent la cannelle avec, dans les cinnamon rolls aussi, parfois je mets un peu de fève tonka, ou je mets du sésame noir, du chocolat. Ça s'associe, oui, très, très bien.
Donc il faut cacher, noyer un peu la cannelle, peut-être réduire aussi les dosages.
Je vais pas cacher,
C'est intéressant parce que Fabrice Rivaud, qui travaille avec nous, a épluché un vieux bouquin de cuisine grecque, Les délices d'Aphrodite de Mavromatis, une fameuse ancienne enseigne parisienne. Il y a de la cannelle dans de très nombreuses recettes, dans la moussaka, dans les feuilles de vigne, et dans beaucoup de recettes de viande également, de viande rôtie, et pourtant... La cannelle, on a l'impression de pas trop l'indistinguer quand on voyage en Grèce. Ça veut dire que soit elle est associée, comme vous le dites, car il y a d'autres condiments, soit peut-être qu'elle est dosée de manière plus discrète.
Exactement. En Grèce, comme au Proche-Orient d'ailleurs, enfin, au Liban, en Syrie, en Jordanie, on va utiliser la cannelle avec beaucoup de parcimonie. Et elle donne un côté très intrigant, curieux. On se dit, tiens, il y a un goût qu'on connaît, mais qu'on n'arrive pas forcément à identifier parce qu'il n'y a pas, elle n'est pas là de manière massive. Et c'est vrai que c'est comme ça peut-être que certaines personnes pourraient apprécier également la cannelle.
Donc, la doser un peu moins et l'associer au gingembre. Parfois, on voit aussi des recettes avec de la cardamome. Et la fraîcheur de la cardamome atténue un peu justement le côté peut-être entêtant et un peu écœurant de la cannelle.
Moi, je fais un porridge avec du couscous. Et souvent, j'utilise un couscous de la veille. C'était le cas, on a mangé couscous hier. Et
Il est là, le porridge, dans nos assiettes.
Exactement. Et donc, j'associe la cannelle avec cardamome, du lait. Je fais mijoter ça. Et ça, c'est vraiment une recette de mon enfance.
Qu'est-ce que c'est bon?
Le matin, pendant l'hiver, avant d'aller dans le bus pour aller à l'école,
dans le Michigan, il faisait bien froid.
Exactement. Il y avait beaucoup de neige et ça tenait chaud. Et c'est une autre variation du porridge. On pense souvent à l'avoine, mais on peut faire aussi avec du couscous.
Avec du couscous. Et le couscous, évidemment, alors soit on recycle du couscous qu'on a déjà utilisé, soit on utilise du couscous sec.
Exactement.
De la semoule.
Oui. Les deux versions se font. Il faut juste mettre moins de liquide.
Il y a des raisins secs.
Et c'est assez subtil dans le.
Qu'est-ce que c'est bon?
Dans le mélange des épices, on sent la cannelle, mais pareil, elle n'est pas au premier plan.
Elle ne tamponne pas, mais elle vient juste apporter un peu de rondeur et de délicatesse. Zazie avait la parole, et ben on va tout simplement lui la laisser. C'est l'heure de sa chronique, et on va voir que la cannelle peut se retrouver dans des répertoires plutôt méconnus.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie, pour ce reportage, vous n'êtes pas allé très loin, mais vous vouliez nous démontrer que la cannelle peut vraiment nous dépayser.
Oui, on l'a dit, la cannelle, c'est une épice qui est utilisée depuis des millénaires dans tout un tas de pays du monde. Mais finalement, en ce qui me concerne, en tout cas, moi je ne connaissais pas vraiment beaucoup de façons de la cuisiner. Est-ce que vous saviez, par exemple, François-Régis, qu'on la retrouve fréquemment dans des plats d'Afrique de l'Ouest?
Alors, je ne veux pas trop faire mon malin, mais j'ai pas mal voyagé du côté du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, et je sais que la cannelle aussi est utilisée là-bas.
Eh bien oui, ben moi je ne le savais pas. Et c'est ce que j'ai découvert avec Senda David Wagena, qui est le chef du restaurant Jujube à Paris, dans le quartier de Montmartre. Il sert une cuisine d'auteur qui mélange de nombreuses influences. Alors il a grandi entre le Togo, justement, et le Sénégal. Il a fait son apprentissage de chef en Italie, et je lui ai d'abord demandé s'il se rappelait du goût des épices qu'il consommait dans son enfance.
Alors, de mon enfance, je retenais surtout les odeurs. J'ai pu mettre un nom sur ces épices en grandissant et en faisant mon apprentissage. Notamment, on a le néré, les graines de néré qui sont ensuite transformées pour faire le nététou, comme on appelle au Sénégal. Ce sont des graines qui apportent de la sapidité et aussi de l'umami dans les recettes. On va utiliser aussi de la cannelle, du gingembre, du poivre. On a différentes variétés de poivre et aussi beaucoup de noix de muscade.
Et là, devant vous, il y a donc de la cannelle sous plusieurs formes. Comment vous l'utilisez dans votre cuisine?
Alors, la cannelle va faire partie intégrante de ma cuisine, aussi bien dans les plats sucrés que les plats salés. Donc, je l'utilise sous trois formes principalement, donc en poudre, notamment dans les desserts où j'ai besoin justement que ça apporte juste le côté aromatique. En infusion, parfois dans des consommés ou dans des soupes, où je vais mettre le bâton entier et ensuite je vais le retirer. Ou par exemple dans mes jus, où je vais le faire toaster avec les autres épices, toaster avec les grains de poivre, avec les clous de girofle, avec les baies de genièvre, avant de démarrer mes fonds ou mes jus de viande, pour rehausser aussi son côté un peu poivré.
Ça peut agir un peu comme un exhausteur de goût?
Absolument. Contrairement à l'idée reçue, les épices peuvent très bien agir comme un exhausteur de goût. On n'a pas que le glutamate. Par exemple, la cannelle et le clou de girofle, et le poivre et le gingembre, on va avoir tendance à les réduire en poudre et à les mélanger à la poudre de crevettes et du piment. Et ça fait un peu ce piment magique qu'on va utiliser sur nos brochettes ou sur certaines choses. Au lieu d'utiliser le sel, ben on a ce mélange-là qui est une espèce de sel aromatisé, qui est voilà, un umami puissance 1000 qu'on donne à une simple brochette, quoi.
Vous avez goûté ce mélange, Zazie ?
Non, malheureusement, j'étais très triste, mais généralement, Senda Wagena le prépare maison ou bien il te le fait envoyer du Sénégal. Et c'est si bon que ça part très vite, donc il n'y en avait plus. Il faudra que je retourne chez Jujube pour le goûter. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que raconte le chef, c'est comment les épices fonctionnent par association avec d'autres épices. C'est un peu ce qu'on disait, ce que vous disiez, Carrie, tout à l'heure. En Afrique de l'Ouest, comme en Asie ou en Inde, on fait d'ailleurs souvent ses propres mélanges maison, qui peuvent être différents d'une famille à l'autre. Et c'est quelque chose que l'on apprend très peu dans notre culture gastronomique française. C'est aussi ce que raconte très bien l'autrice et spécialiste des épices, Bina Paradin, dans son livre La Bible des épices. Elle y parle de son envie de désoccidentaliser notre perception des épices. Et c'est une expression qu'elle emprunte d'ailleurs au chef Olivier Rollinger, avec qui elle travaille.
Et ça me semble être une devise très importante. Et Zazie, alors dites-nous si vous avez cuisiné quelque chose avec Senda.
Oui, alors je vous en ai même apporté, mais avant de déguster, je laisse le chef vous raconter ce que c'est.
Alors la recette que j'ai réalisée est toute simple. On va dire que c'est une base de recette, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est une recette qui vient de ma grand-mère, donc qui travaillait le fonio. Le fonio qui est une céréale ancienne d'Afrique de l'Ouest, on va dire c'est la mère de toutes les céréales puisqu'elle existait bien avant, on retrouve des traces même à la préhistoire du fonio. C'est une céréale qui n'a pas besoin de beaucoup d'apport d'eau pour se développer et on peut cultiver du fonio toute sa vie sans appauvrir la terre. Et en plus c'est super riche en vitamines et en éléments nutritifs. En Afrique on va avoir tendance à l'utiliser aussi pour faire des desserts, on le mélange avec du lait caillé ou simplement avec du lait pour faire une bouillie le matin. Ou en faire un couscous qu'on appelle souvent le tchéré au Sénégal, ben c'est fait à base de fonio, c'est un couscous d'Afrique noire on va dire. Moi dans cette recette-là, donc je vais vous donner un peu cette base en travaillant du fonio, où je vais associer justement mes trois épices préférées, qui sont le poivre, la cannelle et le gingembre. Et on va y aller, on va les cuisiner à l'étouffée, et ensuite on va apporter un peu de matière grasse avec de l'huile et un peu de sel, voilà, tout simplement.
Allons-y. Alors, je vous donne la recette, celle que vous avez devant vous. Pour 6 personnes, il faut 250 g de fonio. On mélange à sec, du coup, avec le poivre. C'est du poivre de Penjin blanc qui vient du Cameroun. Ouais. J'ai compté, Senda, il en a bien mis 20 tours de moulin. Ensuite, on ajoute 3 cuillères à café de cannelle et 1 cuillère à café de gingembre en poudre. On mélange bien avec les mains jusqu'à ce qu'on ne distingue plus les épices du fonio. On met dans un gros faitout. On ajoute le double d'eau dans lequel on a d'abord ajouté de la matière grasse. Donc là, on avait mis 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mmh. On met le faitout sur le feu. Donc très vite, ça va bouillonner. On baisse le feu et on laisse à couvert 10-15 minutes. Et ensuite, on égrène et c'est fait.
Qu'est-ce que c'est voilà. Bon. Et d'ailleurs, ça doit vous rappeler des souvenirs, Jean, puisque vous aviez fait, vous aviez consacré une chronique au fonio, cette céréale africaine. C'est délicieux et la texture est top. Il y a même des petits grains qui croustillent.
Je trouve ça intéressant que, en fait, le fonio nous rappelle le porridge de tout à l'heure et comment ces céréales ou ces semoules fines comme ça peuvent être des ponts vers les épices. Je trouve ça très bon.
Il y a aussi la trame cannelée est super intéressante.
Oui, et ben, dans son restaurant, Senda Wagena le sert en ce moment dans sa recette de souris d'agneau. Voilà, je vous ai mis tout sur le site. Donc l'adresse du restaurant, c'est 4 rue d'Encourt dans le 18e à Paris. Je vous ai mis le site et je vous ai mis aussi la recette.
Ça, faut vraiment l'essayer à la maison. C'est super bon. Même pour accompagner des viandes ou même sans viande, c'est un petit régal. Le fonio à la cannelle de Zazie et Senda. Merci beaucoup Zazie Tavitian. On finit par un petit match de boissons. Vous nous avez apporté tous les deux, Carrie et Samir, une boisson surprise. J'imagine, sinon vous seriez hors sujet, qu'il y a un peu de cannelle dedans, non Carrie?
Évidemment. J'ai apporté un horchata. Donc c'est un boisson où les végétales, du riz, d'amandes, les deux ou l'un ou l'autre... Cannelle mélangée, là j'ai réchauffé et j'ai ajouté aussi un peu de café.
Qu'est-ce que c'est bon.
Donc ça change du cappuccino, c'est rapide à faire.
Sans
je
protéines
mets tout
animales.
Ça dans le blender. Oui.
C'est bien faisant.
Super
ça fait
réconfortant.
Du bien par où ça passe, c'est un régal. Et Samia?
Bah écoutez, moi j'étais un peu déçu de voir qu'il n'y avait pas de chroniqueur vin. Et je me suis dit,
désolé.
Non, mais voilà, étonnez pas déçu.
Dry January.
Bah, je suis désolé, je vais pas dans le bon sens alors, mais voilà, je vous ai apporté, comme pendant longtemps, en France, on a fait de l'hypocrase, qui était le vin avec des épices. Là, je vous ai apporté une version d'hypocrase un peu.
Un peu vin chaud.
Du vin chaud.
C'est ah.
du
vin. C'est ça,
c'est du vin chaud. Oui, pardon, mais version vin chaude, c'est du vin blanc alsacien, pour rester un peu dans la thématique, pinot gris avec de la cannelle. Donc voilà, et je me suis dit que ça pouvait vous faire plaisir à vous.
Petit régal. Il y a également une recette que nos auditeurs vont retrouver sur le site, une recette traditionnelle salée marocaine, c'est le confit d'oignon à la cannelle.
Exactement, il y a également un tagine à la cannelle.
Voilà, tout ça sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Un immense merci les amis. Je rappelle le titre de votre livre dont sont extraits de vos recettes que vous nous avez apportées, Breakfast All Day. Je le recommande vraiment. C'est un super bouquin pour bruncher de manière très conviviale à la maison. 80 recettes de Carrie Solomon aux éditions de La Martinière. La semaine prochaine, on brosse avec Stéphane Sellier, notre spécialiste de littérature, un portrait gourmand de Colette, dont on fête dans quelques jours les 150 ans de la naissance. Manon Fleury et Jérôme Gagnès seront dans les fauteuils des chroniqueurs. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.